Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour Un masque et la plume, consacré ce soir à l'actualité littéraire avec Olivia de Lamberterie-Duel, Elisabeth Philippe de l'Obs, Nelly Capriélian des Inrecuptibles et Arnaud Vivian de Transfuge et de Regard. On parle ce soir du nouveau roman de Leïla Slimani, de deux livres de Murakami, du retour de Jean-Jacques Schoul, d'un roman à quatre mains de Mélisse de Kerangal et Joy Sormand, et du nom N.O.M. de Constance Debray, mais on pourrait dire non N.O.N. aussi pour ce livre-là. Dans le courrier de la semaine, Philippe, non mais non, on va s'expliquer, c'est pas un nom, c'est le nom qu'exprime Constance Debray, c'est pas un nom au livre, au contraire. Dans le courrier de la semaine, Philippe Hugeot de Troyes reproche à Karine Thuil, qui publie, je vous rappelle, la décision chez Gallimard, de n'être pas assez rigoureuse dans ses recherches documentaires. Elle fait dire à un de ses personnages, Emmanuel, souviens-toi de l'affaire Patrick Henry dans les années 70. On est à Troyes, un petit enfant a été assassiné. Trois avocats acceptent de défendre l'accusé, parmi eux Robert Badinter, qui livrera une éblouissante plaidoirie, et Jean-Denis Bredin. Quiconque, nous dit cet auditeur, a suivi l'affaire se souvient que Robert Bocquillon, bâtonnier de Chaumont, s'est commis d'office et a appelé à ses côtés effectivement Robert Badinter, qui a fait une éblouissante plaidoirie, mais que Jean-Denis Bredin n'a jamais été en charge de la défense de Patrick Henry. Voilà, on a des auditeurs sourcilleux qui voient même ce que nous, nous n'avions pas vu. À propos du grand monde de Pierre Lemaître chez Albin Michel, Bruce reproche à Patricia d'avoir divulgué un secret qui ne se passe qu'à la page 400. Ah. J'allais le dire, je vais pas le dire. Sinon, je vais me faire gronder. Par ailleurs, ajoute Bruce, elle estime, Patricia, que seule Hélène est attachante dans cette famille Pelletier. C'est faux. Le père et la mère sont des exemples de parents aimants et présents, terriblement attachants. Toujours à propos du roman de Lemaître et aussi d'une sortie honorable d'Éric Vuillard, dont on parlait ce soir-là, qui tous deux parlent de la guerre d'Indochine. Monsieur ou Madame Bernard s'étonne qu'aucun de nous n'ait cité l'ouvrage formidable de Lucien Bodard sur la guerre d'Indochine, qui traitait déjà des thématiques mises en avant par ces deux romanciers. Et je voudrais, ajoute également Michel Sestone, signaler le livre extraordinaire de Lucien Bodard. Le journaliste fut expulsé car ses articles n'avaient pas l'heure de plaire à l'état-major. Après le désastre de Dien Bien Phu, il s'enferma pour écrire une saga de plus de 1000 pages sur cette guerre. Enfin, Caroline Maury de Bordeaux me remercie d'avoir conseillé Renata N'importe quoi de Catherine Guérard aux éditions du Chemin de Fer. Un tourbillon littéraire, nous dit cette auditrice, on songe à Robert Balzer, Thomas Bernhardt, Emmanuel Boeuf, Raymond Guérin, un torrent d'émotions et de mots, cette recherche infinie de la liberté est magnifique. Donc je rappelle l'autrice, Catherine Guérard, aux éditions du Chemin de Fer. Et on commence avec « Regardez-nous danser » de Leïla Slimani, chez Gallimard, la lauréate du prix Goncourt 2016 pour « Chansons douces » qui vit désormais à Lisbonne, poursuit avec ce deuxième volume de sa trilogie familiale, commencée avec « Le pays des autres » dont on avait parlé au masque, l'histoire du Maroc postcolonial sous le règne de Hassan II, dont la police politique réprime la moindre opposition. On est à la fin des années 60, dans un pays d'ailleurs où on voit qu'est passé quand même le vent de mai 68, et où se croisent Jimi Hendrix, Jacques Brel, Roland Barthes et les hippies. J'ai cherché Arnaud Vivian, je ne l'ai pas vu.
J'avais 6 ans à cette époque.
Ben justement, on est très précoce chez les hippies. Amine a fait de son domaine aride près de Meknès une entreprise florissante. Sa femme Mathilde se plaint de ses infidélités. Leur fille Aïcha, leur fierté, étudie la médecine en Alsace, tandis que son frère Selim préfère nager que faire des études. Aïcha va bientôt rencontrer Mehdi, et là, ce sont les doubles romanesques des parents de Leïla Slimani. Mais moi, ce qui m'a peut-être le plus touché dans ce livre, c'est le portrait du Maroc d'alors, pays pauvre qui s'ouvre au capitalisme, où cohabitent d'ailleurs non sans mal la tradition et la modernité, où on parle plus français qu'arabe, comme si, écrit Slimani, la colonisation n'avait été rien d'autre qu'un malentendu. Deuxième volume, donc, de Leïla Slimani. Qu'est-ce que vous en pensez? On va commencer avec un homme, Arnaud Vivian.
J'avais lu le premier, je n'avais pas été très enthousiaste.
Non, je me souviens.
À dire vrai, ça n'a pas beaucoup changé. Moi, j'ai beaucoup aimé les deux premiers romans de Leïla Slimani. Il y avait
une modernité. Chanson douce, notamment.
Oui, notamment. Il y avait une modernité, en fait, dans son écriture, quelque chose qui faisait bouger un peu les lignes. Là, j'ai l'impression qu'il y a, dans sa manière de raconter, quelque chose de totalement contrit, de contraint aussi. C'est comme si elle voulait absolument rentrer dans le genre de la saga, mais avec quelque chose de suranné qui n'a rien à voir avec le dynamisme, par exemple, de Pierre Lemaître. Les projets sont assez proches, hein, c'est-à-dire raconter...
C'est moins personnel chez Lemaître, alors que là, c'est beaucoup plus personnel chez Slimani.
Personnel, j'ai pas le sentiment.
C'est ses parents.
Oui, c'est sa famille. Parents, oui.
La famille.
C'est l'histoire de ses parents, mais enfin, je trouve que ces personnages n'existent pas. Alors, d'une certaine manière, par rapport au premier volume, il y a quelque chose qui a changé, c'est que il y avait une ambiguïté chez Leïla Slimani à propos du métissage. Le premier volume était assez étonnant là-dessus. Il y avait une sorte de condamnation de l'idée de métissage avec une image où on voyait un citron et une orange qui fusionnaient sur un arbre, et elle disait, voilà, c'est un fruit immangeable. Et donc, il y avait un drôle de propos. Là, il a totalement disparu. Je trouve que il y a des bonnes idées. Hein. Roland Barthes à Rabat, on avait oublié. Jimi Hendrix, bon ça me touche. Et en même temps, l'apparition de Jimi Hendrix, franchement, c'est ridicule. Enfin, il y a un côté.
C'est pas l'essentiel du livre.
Non, mais moi, je m'attendais justement à ce que c'était pas très rock'n'roll dans la. C'est le moins qu'on puisse dire. Le volume 1, je me disais tiens, le volume 2 va l'être un peu plus. Mais en fait, il y a une espèce de classicisme qu'elle s'impose comme un carcan qui moi ça me touche. Pas, rien ne me touche, ces personnages ne me touchent pas, je les trouve parfois caricaturaux, le frère qui travaille dans les services secrets, avec l'histoire avec sa sœur, enfin, je veux dire, les espèces d'inceste dans la famille, tout ça, je trouve que ça...
On a compris que tu étais déçu.
Ah oui, hein? oui.
En revanche, à l'époque, je me souviens pour le premier, que Olivia, tu l'avais fortement défendu, toi.
Oui, parce que je trouve que ce sont tous les deux des grands romans classiques, les livres ne sont pas forcément obligé d'être toujours rock'n'roll. Et je crois même que je préfère ce deuxième tome, parce que dans le premier volume, Leïla Slimani privilégiait vraiment les personnages et les destins individuels, que le pays était en fond, alors que dans ce volume-là, je trouve qu'il y a un très savant et très réussi équilibre entre cette famille, on a l'impression vraiment de découvrir un album de famille, et en même temps avec le Maroc qui est très présent. Et moi, je trouve que c'est un livre sur l'identité, sur ces gens qui sont entre deux. Et elle le raconte de manière très bien. C'est un livre complètement paranoïaque, de gens qui cherchent leur identité en étant tout le temps épié par les autres. Je crois d'ailleurs que le père le dit un instant, il dit c'est un pays où on n'est jamais seul. On est toujours épié, regardé. Et je trouve qu'elle rend très bien cette ambiguïté-là. Il y a une scène très très forte à ce propos. C'est lorsque Aïcha rentre d'Alsace où elle a fait ses études de médecine. Et alors elle s'est lissé les cheveux comme Françoise Hardy parce que ses cheveux étaient son grand problème dans le premier volume. Ils étaient très très frisés. Et là, elle a une jupe mini, et puis elle voit son père qui manifeste un grand plaisir en la voyant, donc elle est très contente, et puis elle va découvrir qu'en fait, son père ne l'a pas reconnue, et qu'il la draguait comme une femme très belle. Et que, après, le père va être très humilié de sa réaction. Je trouve que c'est une scène très forte. Et puis, c'est intéressant parce que il y a évidemment l'ombre du souverain dictateur qui n'a pas hésité à tirer sur des collégiens quelques années auparavant. Et c'est comment ces gens-là peuvent s'arranger pour être heureux quand même. Moi, je trouve que c'est un livre sur cette question fondamentale. Et les pages les plus belles sont à la fin de ce qui est le double du père de Leïla. Et qui dit, mais comment est-ce qu'on a pu être heureux malgré les disgrâces, malgré les condamnations? Moi, je trouve que c'est un livre très classique et très beau, très fluide.
Elisabeth.
Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Olivia, très fluide, et donc je ne trouve pas du tout que ce soit contraint ou contrit comme tu
disais. Je sens que les trois femmes vont être contre l'homme.
Arnaud,
je sens ça. Ça monte, ça monte.
Pour une fois, et on en a l'occasion.
Laïla Slimani, c'est vraiment, je trouve qu'elle s'impose de plus en plus comme une grande écrivaine du corps, et donc tout est dans le titre, Regardez-nous danser, ça passe, tout passe par le corps de ces personnages. Et au lieu de faire de grands discours, d'être très démonstrative et de raconter l'histoire, justement, de façon très classique du Maroc, juste après l'indépendance, elle fait tout passer par le corps de ces personnages. Il y a des scènes de sexe magnifiques, c'est très sensuel, il y a une attention très fine portée aux odeurs, aux lumières, aux couleurs, et vraiment elle montre comment la colonisation laisse des traces à l'intérieur, comment ils sont aussi, à un moment il y a un des personnages, Selma, qui est un personnage aussi magnifique, donc qui est la sœur d'Amin, le patriarche, dit qu'ils sont colonisés de l'intérieur. Mmh. Et ça, Laïla Slimani parvient parfaitement à le faire passer par l'écriture, par certes, tu disais que Olivia qu'il y avait une attention plus portée cette fois-ci sur le pays en tant que tel, mais je trouve que les personnages restent toujours très très bien définis, très bien caractérisés, et c'est par ces personnages-là, par leur corps, que Laïla Slimani fait passer finalement cette idée qui avait été développée par Frantz Fanon, qu'après la colonisation laisse des traces dans les corps, dans les psychés, dans les consciences, et qu'en fait il y a une perte d'identité totale. Et tous ces personnages sont à la fois attirés par l'Occident, avec la présence de Roland Barthes, de Jimi Hendrix, par cette culture, et en même temps voudraient écrire leur propre destin. Et ça, c'est particulièrement vrai du personnage de Mehdi, qui est donc inspiré du père de Laïla Slimani, qui se rêve à la fois écrivain, qui est dans une adoration de la culture française dans laquelle il a baigné, il a été éduqué, et en même temps dans un rejet total. Donc ils sont tous dans une forme d'ambivalence, et je trouve que ça, elle le restitue très bien à travers les personnages qu'elle décrit.
Plus un pouvoir quand même d'une main de fer, quand même, qu'est ce pouvoir d'Hassan II, vous n'en parlez pas à l'époque.
Oui, alors moi, c'est les personnages, en effet. Je pense,
tu l'as aimé, toi aussi?
Moi, j'ai adoré. C'était un peu comme Arnaud au début, je me disais, c'est quand même un peu classique. Et puis, c'est un peu grande fresque historique. Et puis, alors, pas le premier, mais celui-ci.
Parce que c'est un peu classique,
bizarrement.
C'est un peu classique pour les Arocs, hein, quand même.
Non, en fait, parce que... Non, enfin, on en parlera plus tard. Mais très vite... on passe à autre chose. Oui. Enfin, quand elle commence à parler, à faire penser, en fait, ces personnages qui sont extrêmement incarnés, où le fils, à un moment donné, Selim, moi, j'ai adoré les enfants, enfin, les enfants qui deviennent adultes dans ce volume, qui dit, mais qui pense finalement, mais je n'ai jamais vu le sexe nu de mon père. Enfin, pour moi, c'est pas du tout ni académique, ni classique, ce genre de pensée écrite dans un roman. Je trouve qu'on est vraiment dans la psyché incarner des personnages. On est, à travers cette jeune génération, de plus en plus, comme tu disais, Olivia, dans cette espèce de... C'est plus que l'entre-deux, c'est le tiraillement. Voilà. Oui, on est constamment avec des personnages qui sont, ça pourrait tourner à la tragédie, qui sont tiraillés entre l'ancien monde, le nouveau monde, entre les aspirations hippies et puis justement la répression, entre le père qui vénère Hassan II et puis les enfants qui ne veulent pas. Il y a aussi un truc de transfuge de classe, c'est qu'à un moment ils sont en train de dépasser les parents. Ça, c'est absolument magnifique, ça pourrait se passer n'importe où en fait. Ils ne veulent pas avoir une ferme, ils ne veulent pas travailler la terre, ils ne veulent pas avoir le père en souffre, ils pensent qu'ils ont honte de lui.
Pays qui n'est indépendant que depuis 12 ans.
Il y a des scènes totalement sublimes. L'histoire d'amour entre Selim et sa tante, quand elle est en kimono. Non mais, pardon, c'est pas le kimono, tu te marres comme si j'étais obsédée par les kimonos. Non mais ce truc est un érotisme. Encore une fois, je ne parle pas de l'érotisme du tissu.
Non, c'est du kimono. Le kimono est très érotique.
Mais c'est interdit. Ils sont
surtout le kimono marocain.
À osciller. Aïcha qui va... Le kimono marocain, je vous le recommande. Aïcha...
On appelle ça une gandoura.
Une vie sexuelle boostée. Non mais Aïcha qui va en Alsace, la logeuse d'Aïcha qui est raciste, qui la maltraite, et à la fin, ce qu'elle fait quand elle part en gros, elle lui dit je vous emmerde physiquement. Je trouve que c'est plein de trouvailles. Et les personnages sont complètement... La mère est extraordinaire.
Et je trouve que savoir que ce sont les parents de Leïla, contrairement au le maître qui est plus romanesque, ajoute un trouble supplémentaire.
Oui. Et puis les oncles, et puis les tantes. Et là, on se dit...
Alors,
là,
on va arrêter la parenthèle parce qu'on a d'autres livres à évoquer. Tu n'es pas ébranlé
Pas du tout.
Pardon, non.
Tu vas le relire, non?
Non, pas du tout. Non, non. La scène sur Jimi Hendrix m'a suffi, là, une fois suffira.
Oh. Allez, regardez-nous danser, c'est Laïla Slimani et c'est chez Gallimard. Non, N-O-M donc. Mais je me répète qu'il pourrait être non N-O-N, c'est le nouveau roman chez Flammarion de Constance Debré, une avocate, petite fille du ministre gaulliste Michel Debré, qui s'est fait connaître en 2018, je ne sais pas si vous en souvenez, avec Playboy. où elle racontait comment, après 20 ans de vie commune, elle avait quitté le père de son fils pour vivre avec une femme et quitter son métier d'avocate pour se consacrer à la littérature. Non, NOM souffre par la mort en 2020, terrassée par tout, hein, l'opium, l'alcool, l'héroïne, de son père, le journaliste prix Albert Londres François Debré, vilain petit canard qui avait épousé une mannequin absolument aussi destroy que lui, manière pour la descendante des Debré de préparer le lecteur à ce qui va être un féroce famille je vous hais, d'où le nom dont je parlais, N.O.N., dont voici une partie du programme politique. Je suis, dit Constance Debré, pour la suppression de l'héritage, pour la suppression de l'autorité parentale, pour l'abolition du mariage, pour que les enfants soient éloignés de leurs parents au plus jeune âge, pour l'abolition du nom de famille, contre la tutelle, la minorité, contre le patrimoine, contre le domicile, la nationalité. Je suis pour la suppression de l'état civil, je suis pour la suppression de la famille, je suis pour la suppression de l'enfance aussi, si on peut. Voilà le programme donc de Constance Debré. Elisabeth.
Bah voilà un programme politique intelligent.
Bah oui,
hein, cette période de campagne. Non, en fait, de livre en livre, Constance Debré, elle a entamé ce travail de dépouillement, de se délester. Et plus elle abandonne des choses sur le chemin, plus sa littérature est forte. Et là, ce qu'elle fait avec ce livre, c'est vraiment une formidable déclaration d'indépendance. C'est pas un manuel de savoir-vivre, mais c'est un manuel de savoir-exister. Comment vivre libre? Et pour elle, vivre libre, c'est le vide. C'est faire le vide. Ce qu'elle s'emploie à faire avec une forme de radicalité, de constance, c'est le cas de le dire, de livre en livre et dans sa vie. Et après s'être donc débarrassée de l'hétérosexualité, de son métier d'avocate, là c'est se débarrasser
de son mari.
Nom, de son mari, tant qu'à faire. Elle se débarrasse de son nom, de son héritage, de sa famille. Et en fait, elle fait ça comme un soldat.
Elle signe quand même Constance Debré. Hein.
Exactement, son nom est quand même sur la culture.
Mais elle n'est pas exempte de contradictions, elle les assume. Il y a des doutes, il y a des contradictions, il y a à la fois un côté très péremptoire et plein de doutes, il y a ce mélange-là chez elle. Et en même temps, je trouve qu'elle avance tête baissée, comme ça, comme un soldat. Et finalement, c'est un peu un légionnaire aussi. Qui abandonne son nom, abandonne son passé, c'est les légionnaires. Et je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre du moine soldat chez Constance Debré. Et en fait, plus que les détails biographiques qu'elle égrène dans le livre.
Elle les raconte. Hein.
Elle les raconte. Mais moi, ce qui m'intéresse plus chez elle, c'est vraiment.
Mais c'est la façon de raconter. Elle ne les raconte pas. C'est pas des pleurnicheries, c'est pas du trauma, c'est pas. Voilà, c'est une autre.
Et c'est pour en tirer une sorte de code d'honneur. Et en fait, ce que je trouve très intéressant, je pense qu'elle a jamais autant parlé de son métier d'avocate que dans ce livre. Et en fait, à la loi qu'a écrite son grand-père, puisqu'il a été co-rédacteur de la Constitution, elle oppose sa propre loi, son propre code d'honneur, son éthique morale, et elle s'y tient, vaille que vaille, malgré les contradictions que vous avez relevées les uns les autres, et c'est ça que je trouve formidable.
Ah non, moi la seule que je voyais, c'était le nom, c'est simplement.
Et puis il y a cette écriture qui est de plus en plus évidée, de plus en plus radicale aussi, qui est vraiment très très percutante.
Nelly ?
Non, moi je suis. Enfin oui, le nom de Debré, bah oui, elle l'utilise, c'est son nom. Quand elle dit, faut se débarrasser du nom. C'est pas juste l'enlever d'une couverture, là, ce serait une coquetterie un peu artificielle. C'est se débarrasser de l'injonction que porte le nom. On va en parler. J'adore les parents. Je trouve les parents magnifiques de Constance Debré dans son livre. Je trouve. Arnaud, enfin, on va voir ce qu'Arnaud en pense. Mais alors là, l'écriture du livre. Alors là, elle est aussi dans, elle dit, il faut se débarrasser de la bourgeoisie comme quelque chose qui enferme, mais ça pourrait être autre chose finalement. Là, c'est la bourgeoisie, puisque c'est ce qu'elle connaît, c'est là d'où elle vient. Il faut se débarrasser de quelque chose qui est une injonction à rester à sa place, alors qu'on appelle ça l'identité, la classe sociale, les bonnes manières, une voie tout tracée, l'hétérosexualité, n'importe quoi. Elle dit qu'elle s'en fout. Moi aussi, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que l'écriture, je trouve qu'elle s'attaque à l'écriture en refusant tous les poncifs et toutes les conventions de l'écriture et de l'écriture du roman familial. Je trouve qu'elle a trouvé un truc qui est de dire « c'est », par exemple. « Mon père... » c'est si ou c'est ça. Et je trouve que, du coup, ça nous sort d'une espèce d'histoire classique qui véhicule aussi énormément de clichés et de poncifs qui nous enferment un peu tous. Je trouve que c'est, comme le disait Elisabeth, un manuel, un manifeste de survie, d'art de vivre. Je voulais, pour une fois, recopier des phrases. Toutes les pages, c'est des pages d'anthologie. Je trouve ce livre absolument magnifique contre toute forme de détermination, c'est ce qu'elle appelle l'héritage, et pour une réinvention perpétuelle de soi. Et je ne trouve pas qu'il y a de contradictions dans ce qu'elle dit. J'ai lu dans des articles, ah oui, mais alors, là, elle était à New York, elle avait une résidence. Pourquoi... Mais de quoi elle se plaint? Enfin, je trouve ça complètement fou.
Pourquoi
qu'on cherche.
J'imite les...
Non, mais qu'on cherche.
Les critiques qui sont absents.
Je les imite comme ça, avec cette petite voix. Qu'on cherche. C'était un peu le même procès qu'on a fait à Édouard Louis, d'ailleurs. C'était, à chaque fois, on n'a pas le droit de dire, on sort de notre classe sociale, on ne veut plus appartenir, on veut se réinventer selon nos règles. Et ce qu'elle dit, ce qui est généreux, c'est que tout le monde peut le faire. Voilà. On peut le faire.
Alors, Arnaud, puisque Nelly te prend à partie, mais...
Sur l'écriture, pas classique.
Oui, j'avais dit précédemment, à propos de l'écriture, précisément, que c'est un peu... Elle écrivait comme Christine Angot qui aurait écouté les Ramones. Mais c'est maintenant... parce que c'est quand même son troisième livre, elle écrit plutôt comme les Ramones qui auraient lu Christine Angot. Ce n'est pas tout à fait exactement la même chose.
Mais c'est un compliment, non ?
Je trouve qu'il y a... Non, mais maintenant, son écriture, on la connaît. Effectivement, il y a deux choses. Il y a cette écriture, et puis il y a un personnage, une espèce de Diogène punk, voilà, qui dit « ôte-toi de mon soleil » à peu près tout le temps. Pourquoi pas, moi ça me plaît. Je vais vous dire ce qui m'a le plus touché, mais ça c'est très personnel dans ce livre, c'est que ça se passe chez moi. C'est-à-dire que Montlouis, la Membrolle, qui est une commune au nord de Tours, la piscine du lac à Tours, ce sont des endroits dans lesquels j'ai vécu. J'ai grandi à Amboise, dont Michel Debré était le maire pendant très longtemps. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est mon pays.
Mais pourtant, tu n'es pas dans le livre. Hein.
C'est proustien, c'est nom de pays. Non, mais...
Je cherchais, mais je t'ai pas vu.
Figure-toi que j'ai serré la main à Michel Debré. J'étais enfant, comme mon père était commerçant et que le maire faisait la tournée des commerçants.
C'est pour ça qu'il a si mal tourné.
Tellement vieux qu'il me confondait avec mon père, mais enfin bon, donc pour moi, vous voyez, c'est cette famille là je la connais, je veux dire, c'est la famille de mon pays, c'est pour moi, c'est très proustien, mais encore une fois, c'est purement personnel. Après, je pense qu'on est un peu dans la queue de comète de l'autofiction, c'est à dire que effectivement, comme Édouard Louis, il y a un devenir personnage, c'est à dire qu'en fait aujourd'hui dans l'autofiction, les écrivains sont dans un devenir personnage. Et avec toujours une transformation physique. On sait que Édouard Louis a raconté comment il a changé l'implantation de ses cheveux, comment il a changé sa dentition. Elle, c'est pareil, c'est les cheveux, elle se rase le crâne, elle se fait tatouer dans le cou. Il y a cette idée-là, maintenant, en fait, encore une fois, d'un devenir personnage de l'écrivain, et donc qui doit en plus être transformé, qui doit se transformer. Et c'est ça qu'elle raconte finalement. C'est pas tellement sa transformation mentale, c'est plutôt sa transformation physique.
Avec beaucoup de natation.
Avec beaucoup, un corps de nageuse est-allemande, donc elle se forge. Hein,
Quand on nagerait, on deviendrait une nageuse est-allemande.
Oui, non, ça va.
Non, bah écoute.
À mon avis, Arnaud, tu vas passer une mauvaise soirée.
C'est une image.
Non, c'est une image,
qui parlait beaucoup dans les années, évidemment, de l'ancien monde, mais enfin, voilà.
Parce qu'on est de l'ancien monde.
Olivia.
Moi, je trouve qu'il y a deux livres en un. Il y a programme politique dont vous avez parlé, et je crois qu'elle cite Deleuze, et qui est un programme deleuzien de nouvelle mise au monde, qui est exactement tout ce que vous avez dit. Je ne vais pas redire. Moi, il y a quelque chose qui me gêne quand elle érige ce programme comme un modèle. Ça m'énerve. Mais ce que j'adore, moi, dans le livre, c'est son autre partie, qui est un récit personnel, familial. Et là, elle explique pourquoi elle rejette sa famille de l'histoire de France et pourquoi elle rejette sa famille de camés, d'alcooliques. Mais elle les rejette parce que ce sont des gens qui étaient extraordinairement abîmés et, comme elle le dit, qui n'ont jamais purgé leur chagrin, qui n'ont jamais laissé couler les larmes et qui sont donc devenus fous. Et moi, je trouve que ce qui est beau dans ce livre, c'est l'histoire d'une fille qui se sauve pour ne pas devenir folle. Ce que j'aime, ce sont les silences, parce qu'elle parle de sa mère. C'est pas très long, mais elle dit « ma mère nous avalait tellement elle était belle ».
Elle a l'air incroyable, cette
femme. On était dans le ventre de la baleine. Et je trouve qu'il y a une déclaration d'amour à sa mère absolument fou. Voilà, ce que j'aime dans ce livre, c'est l'amour sans le dire, sans jamais le nommer. Même avec son père. Oui. Elle s'occupe de son père en fin de vie, il se parle pas, il regarde des séries, et elle va lui acheter des Mars glacés au supermarché. Mais là aussi, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau. Alors,
elle parle de ce tatouage qu'elle s'est fait dans le cou, qui s'appelle plutôt crever. Et il y a cette radicalité chez elle, mais il me semble que ça serait une confusion de prendre cette radicalité pour de l'indifférence. Elle le dit aussi, elle dit « on croit que je m'en fous » alors que je suis le contraire de quelqu'un qui s'en fout. Et en cherchant sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé une photo d'elle et sur son bras, elle a un autre tatouage qui est un gros cœur dont elle ne parle pas dans le livre, mais je me suis dit que c'était ça aussi, Constance Debré. Quelque chose qui n'est pas dit et qui me touche beaucoup. Et puis il y a quelque chose d'extraordinairement touchant à la fin du livre. C'est le retour de l'enfant. Dans cette vie, elle s'est débarrassée de tout, mais il y a quand même son fils qui revient, avec d'ailleurs un amour qui est une clone d'elle-même. Enfin, il y a quelque chose de très beau.
Alors, c'est Non, N-O-M de Constance Debré, c'est chez Flammarion, et je vous demande maintenant vraiment d'être plus bref et brève sur les livres qui vont venir. Ça tombe bien, puisque le roman dont on va parler maintenant est très court, 112 pages. Il s'intitule « Sévose », il est publié aux éditions Inculte. Et il a été écrit, mais vraiment écrit à quatre mains, par Mélisse de Kerangal, la romancière que vous connaissez de Naissance d'un pont, et Joy Sormand, l'exploratrice, si j'ose dire, de Paris, Gare du Nord, qui était un livre que j'avais adoré. Ensemble, elles racontent la submersion en 52, sous 240 millions de mètres cubes d'eau, du village de Tignes, en Savoie, après la construction d'un barrage hydroélectrique, dont l'ingénieur ici, Tommy Mott, s'est chargé de contrôler les installations. Mais autour de cet ingénieur, comme si ce village englouti remontait à la surface du lac, tout tangue, les paysages, les comportements, l'environnement et même sa raison. Un roman qui a des pages imprimées en bleu et d'autres en noir, pour bien faire sentir le passage du passé au présent. Ça, c'est pas ta région du tout.
Ah, du tout, là, non.
Mais je le dis avant, tu as pu aller en classe de neige, côté de Tignes, ou non.
Non.
Donc, tu peux en parler objectivement. Arnaud.
Oui, mais c'est toujours étrange, l'écriture à quatre mains. On se demande comment ça se passe. Ekman-Chatrian, par exemple, on sait que l'un faisait le plan et l'autre écrivait. Les
là, elles ont vraiment raconté qu'elles écrivaient ensemble, ouais. Ensemble bon, après, certains chapitres.
C'est très court et c'est une belle écriture. Ça fait quand même beaucoup, c'est un peu Naissance d'un barrage, comme Mélisse de Kerangal avait fait Naissance d'un pont. Hein. On retrouve quand même ce souci de la technique, de la description hein, du chantier. Moi, les pages sur le chantier, c'est ce qui m'a le plus plu dans ce très court livre.
Ah bon?
Ah oui, j'ai trouvé
pourquoi
ça, la manière dont...
C'est ton côté BTP, ça c'est ton...
Non, mais c'est surtout la manière dont on a fait venir une main-d'œuvre d'ailleurs, et les morts. Et il est question beaucoup des morts durant ce chantier, d'accidents du travail. Donc ça, j'ai trouvé ça très touchant. Je pense qu'il y a quelques clichés, par exemple le type qui veut arrêter de fumer, etc., qu'on a déjà vu dans 100 000 livres. Et donc, à partir du moment où on fait un texte court, on peut essayer d'éviter ce genre de clichés. Mais enfin, il y a une très belle écriture qu'on connaît, hein, qui d'ailleurs ressemble plus. Le dernier livre de Joy Sormand que j'ai lu, c'était sur l'hôpital psychiatrique. C'était un reportage journalistique à l'hôpital psychiatrique. Ça n'avait rien à voir avec l'écriture très ouvragée, justement.
Hein. Il y a quelque chose de Kerangal.
Qui rappelle plus celle de Mélisse de Kerangal. Il y a une espèce de beauté qui est assez, mais qui n'est pas touchante. Voilà, ça reste assez lointain. Sauf ce moment du chantier où là il y a un peu d'émotion, où le moment aussi où le village va être submergé,
oui, dire, les habitants le moment où
c'est cette part
depuis Paris un village
et pour le coup c'est cette part documentaire je trouve qui est vraiment intéressante dans ce très court livre, c'est plutôt une novella
aussi, dans le livre. Il y a un côté Twin Peaks presque
un peu, mais je trouve ça justement c'est là au moment où c'est fabriqué, c'est plus ouvragé, ça devient fabriqué.
Elisabeth.
Non, parce que justement c'est ce qui fait l'articulation entre les deux temporalités. On a vraiment l'impression d'une vengeance de la nature face à la démesure des hommes qui ont érigé cette immense muraille de béton. Et pour le faire, en plus, on a dû déplacer, avant que le village soit englouti, le cimetière. Donc on a vraiment tous les corps, en fait, qui reposaient sous la terre ont été déplacés dans un autre cimetière. Donc comme s'il y avait là une sorte de péché originel de profanation de la terre qui, 50 ans après, va se venger avec ces phénomènes un peu étranges que constate le personnage de Tommy. Et donc j'ai trouvé que ça donnait justement un côté assez étonnant. Il y a une menace qui plane sur le livre et qui crée une atmosphère, moi, à laquelle j'ai été très très sensible. Et puis toujours, moi, c'est l'écriture très matérialiste, très technique qui me plaît beaucoup, et chez Kerangal et chez Joyce Ormond. Je trouve que les deux ont ce côté-là. Elles ont quand même beaucoup travaillé les mêmes matières.
Très, c'est vrai que non, mais quand on lit leurs livres séparément, c'est très différent comme écriture. Hein.
Très, oui, très, très, oui, différent. Très, très différent.
Et marrant, ouais. Parfois, Kerangal, elle surécrit un peu. Ouais. J'ai un livre sur la cuisine qu'elle avait fait, par exemple. Ben, c'était pas Top Chef, hein. C'était quand même très, très, très
ouvragé. Là, c'est un peu parfois surécrit quand même.
Ouais. Ah, moi, je trouve pas.
Alors
je
trouve, que j'aime beaucoup ce
côté très phrase d'un maniérisme.
Alors, Nelly.
Non, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une écriture. Alors, pardon, j'ai horreur de prendre des citations, d'extraire des phrases et de les lire, mais peut-être que j'aurais dû. Donc, vous êtes obligés de me croire sur parole. Je trouve qu'il y a des phrases d'une chantournée, d'un maniérisme absolument vain, en fait. Et moi, j'aime beaucoup Joyce Ormond, j'aime moins Maëlys de Kerangal, donc j'étais très curieuse de voir ce qu'elles allaient faire ensemble. J'adore le projet d'écrire. Je pense que les écrivains aujourd'hui devraient peut-être plus le faire, c'est assez marrant. Et là, bah, je suis un peu, le résultat, c'est un peu tiède pour moi. En fait, je me suis beaucoup ennuyée, c'est-à-dire le temps qu'on arrive à Twin Peaks, j'étais noyée, moi aussi, enfin, dans le dilution.
Il y a beaucoup d'eau, hein.
C'est très aquatique, je pense qu'elles veulent une écriture aquatique, je pense qu'elles savent. Elles veulent trop de choses, peut-être. Je trouve, alors, cette écriture comme ça. Pour le coup, Arnaud, ce que tu disais de Leïla Slimani, là, moi, je les trouve très contrites, très bonne élève, très on veut bien faire, très on veut. C'est un projet politique, et en même temps, c'est un peu de fantastique, et en même temps, moi, le temps qu'on arrive à cette partie.
C'est pas vraiment un projet politique.
C'est quand même de montrer un peu ce qui s'est passé et comment ces contrées ont été sinistrées par la technologie, par le désir complètement fou des hommes de maîtriser la nature.
Mais même là, il y a une scène que je trouve. Je suis désolée.
En tout cas, c'est la quatrième de couverture, je crois. Oui, j'ai pas vu non plus vraiment ça dans le livre. Non, mais c'est vrai. Il y a un côté comme ça survendu, et je trouve pas ça très bon, en fait. En fait,
scène, par exemple, moi, j'étais très sensible comme Arnaud à tout le travail, le chantier avec ses ouvriers venus. Par exemple, il y a cet homme qui se retrouve emmuré vivant dans le barrage, qui est vraiment, qui se retrouve coulé dans le béton. Et là, pour moi, on est dans la nouvelle d'Edgar Allan Poe, quoi, ce côté être emmuré vivant.
Pareil qu'il y en aurait un dans un des piliers de la Bibliothèque nationale de France. Hein.
C'est vrai?
Oui.
Ah oui, c'était.
Allô?
Nan Borga.
Allô?
Nano Rousseau l'avait raconté dans un de ses livres.
Oui, absolument.
Ah, c'est déjà fait.
Oui, oui. Non, mais c'était.
Tous ces écrivains qui veulent un sujet, c'est dommage. Hein.
Non, mais il paraît que c'est vrai, en plus. Olivia?
Eh ben, moi, j'ai adoré. Je trouve que c'est l'exact addition entre Naissance d'un pont et À la folie. Naissance d'un pont de Kerangal et À la folie de Joyce Ormond, qui était, à mon avis, le document le plus beau de l'année dernière.
Gare du Nord, c'était très, très bien.
Et leur préoccupation commune, ce sont les lieux. Comment les lieux transforment les gens. Moi, j'ai eu l'impression de lire un livre sur Pompéi, en fait. J'aime beaucoup quand elle parle de technique, effectivement, comment on installe des cloches, comment on fabrique du béton.
Ça t'intéresse, ça?
J'adore.
Je vous savais pas aussi technique.
Moi, j'aime beaucoup ça, parce que je trouve qu'elles savent tous les deux très, très bien le raconter. L'installation des trois cloches, moi, j'ai adoré. Et moi, j'ai également adoré l'autre partie du livre, qui est cet homme qui vient des années plus tard, qui sombre dans une sorte d'irréalité. On ne sait pas si c'est lui qui est fou ou si c'est la réalité qui devient folle. J'ai trouvé qu'elle le faisait, mais génialement bien, par des tout petits détails. C'est comme si on assistait à une sorte de film catastrophe un peu au ralenti. Moi, j'aime bien ça. Il arrive dans cet hôtel, il n'y a personne. Il descend le lendemain matin, on lui dit « Mais non, l'hôtel est plein alors qu'il n'y a personne. » Il se dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il y a un cauchemar monstrueux que je ne vais pas vous raconter ici.
Et la scène avec le chien, quand il se retrouve seul face à face avec un chien, il est nu.
Avec un chien qui gratte à la porte. Moi, je trouve que les scènes quand il essaye d'arrêter de fumer, bah, écoute, quiconque a arrêté de fumer se retrouve dans ces propos-là.
Ça a été raconté une fois, c'est un vieux truc de romancier.
Mais il n'a pas que ça, il note ses rêves aussi. Je trouve qu'il n'est pas du tout.
Il y a quand même une part de cliché dans ce
roman.
Ah non,
je
ne
pense pas qu'il y ait de leurs rêves dans les romans.
Et je trouve que c'est moins pénible que chez Michel Houellebecq.
Oui, ça c'est vrai. Comme disait Nabokov, tu racontes un rêve, tu perds un lecteur.
Là, il y a un cauchemar.
Il en a perdu beaucoup, Houellebecq, alors.
Il y a un cauchemar.
J'ai l'impression.
C'est vos.
Et je me demande
aux éditions incultes
à travailler la langue à deux.
S'il vous Jérôme. Plaît, j'aime beaucoup travailler la langue à deux. Édition Inculte, et c'est donc signé Mélisse de Kerangal et Joyce Sormand. Autre texte bref, à peine 100 pages, récit d'ailleurs plus que roman, ce sont les apparitions chez Gallimard de Jean-Jacques Chou, l'écrivain parcimonieux, qui a reçu le prix Goncourt en 2000, je ne sais pas si vous en souvenez, pour son livre consacré à sa compagne, l'actrice et chanteuse de légende Ingrid Cavan. Et on n'avait plus entendu parler de lui depuis Entrée des fantômes, et c'était déjà il y a 12 ans.
Ouais, ça passe vite.
C'est la phrase que j'ai pas osé dire, mais c'est bien qu'il l'ait dit.
Moi, je suis là pour ça.
Et voici qu'il la raconte, et qui raconte comment, après avoir été hospitalisé à la suite d'une grave hémorragie interne, il a eu des visions qu'il consigne méthodiquement, mais dans le désordre. Donc je vais être très bref, on trouve dans ce livre où il cite Mallarmé et Yeats, cinq apparitions, parfois d'une grande violence, hein, parfois vampirique, où on passe de New York au jardin, ça m'a fasciné, de l'ambassade de Russie à Paris, qu'il peut voir en plongée, où Dreyer croise Dürer, et où, oserais-je l'avouer, même en 100 pages, parfois on se perd, ça m'est arrivé de temps en temps. Nelly
Oh, on se perd beaucoup. Non, mais on se perd beaucoup. C'est quand même, on est dans le cerveau de Jean-Jacques Chou, là. C'est,
oui, mais
ça commence.
Le cerveau de Jean-Jacques Chou, malade.
Malade, oui. Ou en bonne forme, d'ailleurs, j'espère. Non, c'est le cerveau d'un écrivain.
Mais c'est
enfin, ou le cerveau n'importe qui, d'ailleurs. On est dans un cerveau. Enfin, on est dans un esprit qui est hanté, d'ailleurs, par d'autres esprits qui lui ont. Ça commence par Jean-Jacques Schulz regardant dans la couverture du Times, je crois, qui est argenté. Ouais. Vous êtes le héros de l'année, ou je sais pas quoi, ou l'homme de l'année. Et là, on entre, c'est Alice au pays des merveilles. Enfin, c'est Jean-Jacques au pays des merveilles, où il va se passer des choses totalement surréalistes. On comprend peu à peu ce qu'il se passe, qu'il est malade, qu'il a été hospitalisé, qu'il a eu une hémorragie. Il revisite un peu toutes ses obsessions, c'est-à-dire que tout ce qui a nourri ses romans, c'est des motifs qui apparaissent, qui disparaissent, comme ça, mais un peu comme il rapetissit, il grandit. Enfin, vraiment, pour moi, c'est Lewis Carroll avec Jean-Jacques à la place de la jeune Alice. Ingrid, peut-être, et le lapin, je ne sais pas. Et j'aime le moment où on en vient justement à l'hémorragie. Donc, il est à l'hôpital, il est transporté à l'hôpital, il saigne.
En urgence.
Qui a toujours été obsédé par les vampires et par les femmes complètement les mannequins chétives, un peu à la Twiggy, très très pâles, qui ont l'air camées, et ben voilà que moi je suis homme à nouveau. Et là, on voit que c'est plus un corps, c'est un texte. En fait, ce qui est en train de remplacer, ou ce qui est déjà là, à la place de son corps, c'est sa littérature, c'est son texte. Voilà. Alors, moi j'ai beaucoup aimé. Maintenant, très franchement, je pense que c'est quand même un petit Jean-Jacques Schulz. C'est pas.
Mais il l'est par la taille déjà.
Il l'est par la taille. Je pense qu'il faut vraiment connaître et aimer le travail de Jean-Jacques Schulz pour vraiment.
Tu dis Schulz, toi. Moi, je dis Schulz
et Schulz. J'alterne. T'as pas remarqué?
Non, j'ai remarqué. Non. Oui, mais c'est pour ça que je comprends pourquoi.
J'attends quelqu'un me valide sur une des versions.
Moi, je préfère Schulz.
De
la haute.
Lui dit Schulz en tout cas.
Oui, voilà, il dit Schulz. Oui, je crois que c'est. Oui, voilà. Ça
lui dit Schulz.
Ah oui. Ouais.
Oui, bon, de toute façon, on n'a pas le temps de savoir si c'est Schulz ou Schulz.
Appelons-le Jean-Jacques.
Et Elisabeth.
Jean-Jacques. En fait, ce qui est amusant, entre guillemets, c'est. Enfin, moi, ça m'a fait penser au livre de Théophile Gautier, Spirit. Le livre s'écrit tout seul. Et là, il y a un livre sans écrivain. Ah, et là, c'est un peu ça. C'est les apparitions, mais en fait, c'est les mots qui apparaissent. Lui, plus il disparaît, puisqu'il se retrouve au parage de la mort, dans un semi-coma, plus les mots quasiment se font tout seuls. Et effectivement, il y a Mallarmé qui est un peu tapis dans l'ombre de ce texte, et Mallarmé qui écrivait notamment dans Divagation que pour que l'œuvre pure advienne, il faut la disparition élocutoire du poète. Alors, c'est une formule un peu savante, mais vraiment, Schulz disparaît pour laisser vraiment toute la place aux mots, et on se laisse embarquer par ces phrases qui sont. C'est le roman d'un revenant, mais en même temps très vivant, parce que je trouve qu'il y a plein de formules assez prime sautière, même assez drôles, parce qu'à la fin, il y a tout un dialogue avec la médecin qui l'a soigné, il lui demande, mais d'où viennent ces apparitions? Et c'est assez drôle, tous ces échanges avec le médecin pour savoir comment ces apparitions ont pu venir. Il y a plein de digressions sur le jeu du foulard, sur les jeux érotiques pour essayer de. Enfin, d'étranglement. Oui, dit comme ça, c'est pas très drôle, mais.
Oui, tu trouves ça très drôle, toi.
J'adore. Je trouve ça hilarant. Et j'ai plutôt aimé, mais effectivement, il y a un côté un peu Frankenstein aussi avec ce texte, puisque Schulz pratique le collage, travaille sur des lambeaux de texte. Donc, si on n'est pas forcément familier avec son œuvre, c'est peut-être un peu difficile.
Arnaud.
Oui, il y a quand même une manière de conjuration de la mort dans ce livre que je trouve très belle. C'est-à-dire que c'est quand même un texte assez drôle. Il est en train de mourir, en fait, cette hémorragie-là, qui d'ailleurs est tout le contraire de lui, parce que on l'a dit, il a écrit 6 livres en 50 ans, c'est le contraire d'un écrivain hémorragique. Hein. C'est vraiment la rétention la plus absolue. Et là, il est...
J'appelais parcimonieux, c'est tout.
Oui, en train de se vider de son sang, et en même temps, il a une espèce de ressort qui fait que ça devient drôle. Il a des visions, des visions, justement pas des rêves. C'est ça qui est intéressant, c'est que il essaie de comprendre comment son cerveau a fonctionné à ce moment-là. Moi j'adore aussi les dialogues avec le neurologue dans une espèce de compréhension de ce qui a pu se passer. Après, textuellement, on sait que c'est un adepte du cut-up, hein, comme l'était William Burroughs, qui évidemment est là, apparaît lui aussi à côté de Mallarmé dans ce texte. Et donc, il y a une construction comme ça, très diaphane, mais on est tout le temps au bord de la disparition, mais c'est ce qui fait la beauté même de ce texte.
Olivia ?
Oui, parce que c'est diffus, vaporeux, désordonné. Moi, je n'y comprenais rien, hein, je dois vous le dire. Et en même temps, c'est totalement grisant. Il y a des épiphanies sur l'écriture, surtout. C'est un homme qui se vide de son sang et en même temps qui raconte comment toute sa vie, il a été transfusé par des mots. C'est un livre à rebours aussi de tout ce qu'on attend de la littérature aujourd'hui, qu'elle soit lumineuse, clairvoyante, qu'elle délivre un message.
Ah, moi, c'est pas un roman de Pierre Lemaitre.
Cette espèce de traité de résistance à l'époque, imposant une certaine idée de la littérature. Et puis, il raconte que son projet ultime, ça aurait été d'écrire un livre sans aucun mot à lui, avec justement que les mots des autres.
Bah, ça a été tout l'essentiel de sa recherche dans ses 2 premiers livres, Poussière et Télé.
Voilà, que la liberté, c'est les mots des autres. Non, j'ai trouvé ça très beau. Et les 3 dernières phrases que je n'ai pas appris par cœur, c'est très curieux parce que le livre est très diffus et tout d'un coup, on lit ces 3 dernières phrases et on a une impression physique de toucher la beauté, je trouve.
C'est donc Les apparitions chez Gallimard de Jean-Jacques Choule. Vous avez remarqué quand même que depuis le mois de janvier, là, tous les prix Goncourt, les uns après les autres, signent des... Oui, reviennent avec des romans, c'est quand même troublant. Hein.
Oui.
Et on termine avec 2 livres de l'écrivain japonais le plus lu dans le monde, qui n'a pas eu le Goncourt, lui.
Le Nobel, il peut pas.
Vous avez reconnu. Je suis même pas sûr qu'il le cherche, qu'il le veuille.
Non, peut-être pas. Oui,
non.
Chaque année, on dit qu'il va l'avoir.
On dit qu'il va l'avoir.
C'est partie des favoris. Ouais.
Vous avez reconnu Haruki Murakami, dont paraissent chez Belfond, tous 2 traduits par Hélène Morita, un recueil de 8 nouvelles, première personne du singulier, et un livre illustré, Abandonner un chat, souvenir de mon père. Dans le premier, où il flirte avec l'étrange, un étudiant publie une nouvelle dans laquelle il invente un disque imaginaire. Charlie Parker plaise Bossa Nova, dont il découvrira des années plus tard chez un disquaire de New Yorkais qu'il existe bel et bien. Dans une autre nouvelle que j'ai beaucoup aimée, un singe doué de parole est employé par un hôtel japonais pour faire des massages aux clients. Les 8 nouvelles étant rythmées par les Beatles et écrites à la première personne, dont le titre du singulier. Et dans le second livre, Murakami parle pour la première fois de son père, un père très silencieux, très taiseux, engagé dans la guerre sino-japonaise et la Seconde Guerre mondiale, et traumatisé jusqu'à sa mort, à 90 ans, parle des atrocités qu'il avait vécues, père qui priait beaucoup et qui écrivait des haïkus, qui était très porté comme Arnaud sur le saké et qui a été brouillé avec son fils quand même pendant 20 ans. Donc je ne sais pas, on n'a pas le temps évidemment d'entrer dans le détail de ces 2 livres.
Parler.
Non, mais vous avez le droit de me dire celui que vous préférez, vous avez envie de conseiller peut-être à notre public.
Moi, j'ai lu que le premier, les nouvelles autobiographiques, et je ne suis pas toujours très sensible à la fantaisie de Murakami dans ses romans. Et là, je les ai trouvées somptueuses, c'est merveilleux. Ce sont des nouvelles sur la mémoire.
Finalement, je t'ai fait un bon programme ce soir. Hein,
oui,
excellent ce programme.
En général, tu râles, mais là, t'es contente.
Non, je ne râle pas. Et là, c'est extraordinaire. Oui, c'est comment la mémoire devient un outil émotionnel et presque une manière de vivre et de survivre. Celle dont tu as parlé, de cet étudiant qui invente un disque, Charlie Parker Plays Bossa Nova, et quelques années plus tard, il est à New York chez un disquaire et il va découvrir le disque. Alors évidemment, il ne va pas l'acheter il va passer toute la nuit à y penser, le lendemain il retourne chez le disquaire et le disque n'existe plus. Il y en a une autre aussi, mais extraordinaire. Un jeune homme est invité à un concert d'une jeune fille, et puis il arrive, il n'y a pas de concert, il n'y a rien du tout, il se retrouve dans un jardin public avec les fleurs dans le papier cellophane qu'il a acheté, il tombe sur un vieux monsieur qui lui dit « Est-ce que il faut que tu visualises un cercle qui possède un nombre infini de centres, mais pas de circonférence ?» Et il lui dit « Quand tu auras visualisé ce cercle, tu auras trouvé la crème de la crème de la vie. » Moi, je ne peux pas vous dire, ça fait des jours et des jours que je cherche ce cercle. C'est d'une beauté vraiment pas spectaculaire, feutrée, bouleversante. C'est ce que j'ai lu de mieux depuis longtemps.
Et lit aussi le
Abandonner le chat, mais alors je n'aime pas tellement ce programme.
Arnaud ?
Moi, j'ai jamais été très sensible à Murakami, je dois dire.
Mais là ?
Un peu plus, un petit peu plus, mais enfin, l'histoire du disque de Bossa Nova, je suis sûr que cette trame-là existe dans une nouvelle de Balzac. Je n'arrive pas à me souvenir, mais
avec un disque, avec
non, pas avec Charlie Parker, mais avec la même idée d'un objet.
D'inventer quelque chose, mais on l'a voilà, déjà lu ouais. quelque part. Hein.
Oui, on l'a déjà lu quelque part. Et il y a ce côté là chez Murakami, on l'a déjà lu quelque part. Après, si vous voulez, on sait tous qu'il a tenu un club de jazz, on sait tous qu'il aime le baseball, alors donc il y a une nouvelle sur le baseball, il y a une nouvelle sur le jazz, et donc
tu vas pas lui reprocher de parler de ses...
Non, mais en même temps, c'est toujours ce qu'il fait, et toujours avec une espèce de... Alors, je me disais, je pensais à Roland Barthes et ce qu'il disait de la fadeur au Japon, et je trouve que d'une certaine manière, il y a une écriture fade qui peut-être est totalement japonaise, mais qui personnellement m'ennuie profondément.
Je crois qu'il faudrait que tu lises en japonais.
Elisabeth.
Pour être sûre.
Oui, mais non, mais prends le japonais pour lire Murakami.
On retrouve en effet tout ce qu'on trouve toujours dans les livres de Murakami, le baseball, la musique, les chats abandonnés ou pas, etc. Mais là, c'est comme si c'était mis en sourdine, et puis en plus, c'est teinté de... Il y a quelque chose de très crépusculaire, parce que c'est des souvenirs, c'est quand même...
Mais pas tant que ça.
Ah si, il y a quand même toujours l'ombre de la mort, du suicide, et en même temps, il y a des nouvelles qui sont très belles, effectivement. Moi, celle sur le singe qui vient faire des massages dans le onsen, je la trouve merveilleuse. Et en plus, ce singe, en fait,
il
a un gros problème, c'est qu'il ne tombe pas amoureux des singes femelles, il tombe amoureux des femmes humaines. Et évidemment, il sait que si voilà, il voulait assouvir ses désirs, ça passerait assez mal. Donc, pour quand même pouvoir vivre des histoires d'amour, il vole le nom des femmes. Et je trouve cette idée absolument merveilleuse. Et en fait, toutes ces nouvelles...
Enfin, ça, c'était chez Balzac. Hein,
Peut-être. Et chez Malarmé aussi, je ne sais plus.
Ah, le Balzac sur Charlie Parker.
Mais non, ces nouvelles, en fait, on dirait des petites épiphanies, ce qu'on appelle dans le bouddhisme japonais des satori. Des sortes d'illuminations qui nous font toucher comme ça le...
Etienne Dao, Pop Satori.
J'ai pensé au
Etienne Dao, chacun c'est...
Non, mais j'ai pensé au zen japonais, en fait. Parce que je me suis dit, il est très entre Borges et le zen. Très sur l'impermanence des choses. Je trouve très, très beau dans la nouvelle... Oui, The Beatles, que en même temps je n'ai pas fini parce que je la trouvais un peu ennuyeuse. mais en même temps, mais quand même, la moitié de cette nouvelle... qui est la plus longue, hein, je signale. Cette fille qui passe avec sa jupe en corolle, années 60, qui croise dans les couloirs, je crois, de l'école, de la fac. Elle serre son livre, son disque, With the Beatles, et il ne la reverra
plus
jamais.
Contre son kimono marocain.
Contre son kimono, hélas, japonais, je suis désolée. Je trouve ça très beau. Je suis assez d'accord avec Olivia, c'est-à-dire que moi qui n'aime pas d'habitude Murakami, là, je trouvais bien. Et quand même, avec Arnaud, au fond, c'est pas non plus grand-chose. Je ne comprends pas cette histoire de prix Nobel, quoi. Je
absolument.
Ne comprends pas
à chaque fois,
que il soit nobelisé.
Personne ne parle du souvenir de mon père, que je trouve très...
Mais c'est trop dur, quand même, abandonner un chat. Enfin, tu comprends qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas aborder ce sujet.
Elisabeth, on ne peut pas toucher
le
chat.
C'est pas possible.
C'est donc première personne du singulier, ça ce sont les nouvelles, et abandonner un chat. Pardon, Elisabeth. Souvenir de mon père, donc les deux de Murakami sont chez Belfond. Voilà, venu le temps des conseils, et on va commencer avec Nelly.
Ben écoute, je vais te décevoir, je sais que tu n'aimes pas quand on fait ça.
Quoi ?
Mais moi je ne vais pas jouer le jeu, je vais te dire... où je vais conseiller, à nouveau, le Constance Debray. Non. Parce que je trouve que c'est le livre qui m'a quand même le plus marqué de cette rentrée.
Mais tu l'as dit haut et fort.
Non, je ne l'ai pas assez dit. Et donc, je recommence.
Elle est rebelle.
Je n'ai pas dit tout ce que je voulais dire sur ses parents, que j'ai trouvé absolument magnifique, qui essaye de s'en sortir aussi de la bourgeoisie. C'est une forme de cavale, c'est Bonnie and Clyde. Il me déménage sans arrêt. Et au fond, je termine, je vois ton regard atterré, Jérôme. Et elle-même, même parle beaucoup de ces déménagements et de cette espèce de ce qui pourrait être une fuite en avant qui ne l'est pas, qui, elle trouve l'écriture, et là, c'est une cavale absolument lumineuse. Voilà. Et ce livre est magistral.
Je pense que je vais l'inscrire à un prochain programme, parce que tu as l'air très convaincante, et donc nous parlerons de nom de Constance.
Pourquoi dire oui, j'ai aimé tel
livre. Tu ne joues pas le jeu.
Je ne joue pas le jeu.
Un livre sur un chat, peut-être, d'Elisabeth.
Alors, Murakami, j'ai beaucoup...
Mais on n'en a pas parlé, tu pourras, je trouve.
Non, moi j'ai choisi un livre qui s'appelle Dérive au pluriel, d'une américaine qui se nomme Kate Zambrano. C'est un livre traduit par Stéphane Van Der Egg et c'est paru à La Croisée. Et en fait, ça raconte une écrivaine qui n'arrive pas à écrire son livre, un livre intitulé Dérive, et qui, au lieu de se mettre à son bureau, prend le soleil avec son chien sur son porche, regarde ce qui se passe dans la rue, prend des chats en photo, se masturbe parfois.
Voilà, prend des chats en photo.
Oui, et il y a même des photos.
Et se masturbe après.
Mais il n'y a pas de corrélation forcément. En tout cas, il y a des photos de chats, mais pas des photos. Il y a juste des photos de chats, pardon, et de chiens aussi. Et elle réfléchit pendant tout ce temps aussi, quand elle ne fait pas, ça donne pas ses activités, à l'écriture, à ce que c'est que de créer, en évoquant Kafka, Robert Walser ou encore Rainer Maria Rilke. Et en fait, c'est vraiment une dérive, une errance mentale dans l'esprit d'une écrivaine et qui se pose plein de questions sur la création aujourd'hui. C'est passionnant, c'est très
tu
beau.
Tu rappelles titre éditeur.
Dérive de Kate Zambrano à La Croisée.
Mon conseil, eh bien, je le cède très volontiers à une auditrice, Agnès Guniels, qui m'a écrit « Dans ma librairie de quartier, je tombe sur un pavé de 700 pages, avec en couverture une des figures les plus célèbres du cinéma, ce chasseur dont on rêverait d'être l'ami d'Erzo Uzzala. Vous qui êtes autant sensible à la littérature qu'au cinéma, savez-vous que cette œuvre de Vladimir Arseniev, devenue mythique grâce au film de Kurosawa, n'avait jamais été intégralement traduite en français. Je l'ai appris, nous dit donc Agnès Guniel, dans la passionnante introduction d'Yves Gauthier, le traducteur et maître d'œuvre aux éditions Transboréales de cet ouvrage richement illustré. Je me suis plongé dans le texte et me sont revenus en mémoire les images d'un film qui m'a marqué à vie. Et vous n'êtes pas seule, Agnès. Quelle amitié, quelle liberté, quelle nature et quelle fin bouleversante. Peut-être un conseil de lecture pour vos auditeurs. Merci en tout cas à vous. Et donc, c'est donc d'Erzo Uzzala, et c'est chez Arseniev, et c'est aux éditions Transboréales. Voilà le conseil d'Olivia.
Un livre qui s'appelle « Le musée des contradictions » d'Antoine Wauters, au sous-sol. Alors c'est un livre qui ne rentre dans aucune case, ce sont des échappées, ce sont des lettres ou des adresses ou des discours de jeunes, de vieux, de mères, de gens qui sont en rupture de ban et qui sont contre le système et que le système d'ailleurs a rejeté. Et parmi toutes ces lettres, il y en a une, ce sont des vieux qui s'échappent de l'EHPAD. Et c'est un vieux qui écrit à sa femme disparue. Donc ils sont partis en pyjama, en pantoufles, pour fuir cette vie où on leur donne même pas de chaussures, on leur donne tout le temps des flancs à la vanille.
Mais c'est très actuel comme livre.
C'est très actuel.
C'est incroyable.
C'est génial. C'est poétique, c'est politique. C'est le plus beau discours politique de cette campagne. Et c'est quelques pages de ces petits vieux qui s'en vont. C'est magnifique. Ça s'appelle « Le musée des contradictions au sous-sol ».
Le conseil pour finir d'Arnaud.
Il y a le nouveau livre de l'un de nos meilleurs journalistes d'investigation, Marc Andevelde, qui s'appelle « L'emprise, la France sous influence », c'est aux éditions du Seuil. C'est, si vous voulez savoir la vérité sur Vincent Bolloré, sur la filière du nucléaire aujourd'hui, sur Airbus, c'est un livre absolument remarquable qui raconte les coulisses avec les services secrets, ça se lit, mais là, je ne vais pas vous dire que ça se lit comme un roman parce que c'est pas vrai, c'est très dense en même temps, c'est plein d'informations. Mais pour moi, c'est un livre d'utilité publique que tout le monde devrait lire avant d'aller voter aux élections.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Elisabeth Philippe, Nelly Capriel-Lyon, Olivia de Lamberturie, Arnaud Vivian, pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Et ce soir, au théâtre de l'Alliance française, à la technique, il y avait, et je les remercie, Benjamin Vignal, Antoine Tropé, Philippe Thibault, à la régie Jean-Yves Masson, et à la réalisation, bien sûr, Xavier Pestugia. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, il aura lieu le jeudi 3 mars, à partir de 19h, au théâtre de l'Alliance française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris. pour deux émissions, l'une consacrée au livre, l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera de théâtre. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment. Et après le journal, vous retrouvez Stéphanie Duncan pour Autant en emporte l'histoire.